Les colloques du Collège de France.
Et je commencerai par trois remarques liminaires. Et d'abord par une note philologique, qui est aussi un hommage à l'un de nos meilleurs spécialistes actuels de rhétorique ancienne, Michel Patillon. Alors je passe à la deuxième diapositive. Les sources grecques sur les exercices préparatoires de rhétorique, ce sont principalement quatre traité intitulé Progymnasmata. Je reconnais que le mot est interminable et difficile à prononcer. Trois d'entre eux sont en fait des recueils de corrigés. Le plus ancien, qui est dû à un certain Aelius Théon et qui date sans doute du 1er ou du 2 siècle après Jésus-Christ, s'adresse au maître et propose nombre d'indications pédagogiques extrêmement précieuses. Le problème et que l'on ne disposait que d'une version lourdement abrégée et remaniée de ce traité. C'est dire l'importance de la nouvelle édition qu'en a donnée Michel Patillon en 1997, où l'on trouve un texte grec remis dans son ordre originel et complété grâce à une traduction arménienne élaborée sans doute au 5e, 6e siècle, d'après un état du texte grec antérieur à la refonte. Cette traduction, connue depuis longtemps, était telle qu'elle quasiment incompréhensible, parce qu'elle était conçue comme une transposition verbatim depuis le grec. Et c'est tout le mérite de Michel Patillon que d'avoir, avec la collaboration d'arménologues expérimentés, Giancarlo Bolognesi et Agnès Ouzounian, établi une correspondance stricte entre le grec et l'arménien pour toutes les parties où le texte est conservé dans ces deux langues. Cette correspondance a permis une rétroversion de l'arménien au grec quand ce dernier faisait défaut. Grâce à l'informatique, Michel Patillon a projeté en face de l'arménien tous les mots grecs dont l'équivalence avec cette langue avait été établie précédemment. Il a obtenu une sorte de trame pour la reconstitution du grec. Alors cette rétroversion n'était pas destinée à être éditée, mais à permettre l'élaboration de la traduction de l'arménien. Michel Patillon l'a conservé et si on lui fait la demande, il peut apporter des précisions sur le grec reconstitué et sa traduction française. Seule nuance, c'est qu'il faut connaître le grec et l'arménien. Très vite, Jean-Luc Fournet saluait cette publication dans la Revue des études grecques comme un événement philologique. L'éminent papyrologue qui est ici soulignait aussi l'intérêt du texte de Théon. Je cite, « Ce texte est fondamental dans l'histoire de la rhétorique qu'il marquera profondément et en même temps, par ses visées pédagogiques constamment soulignées, il est un témoignage de premier ordre sur l'histoire de l'enseignement. » Alors je rebondirai sur cette formule pour aborder le deuxième point de mon introduction. Je voudrais développer un peu cette très étrange équation entre enseignement et rhétorique, qui peut surprendre, voire horrifier certains, notamment les lecteurs du Gorgias de Platon. Dans l'Antiquité grecque, vers la fin de la période démocratique, dans des périodes de violence politique extrême, et en même temps qu'apparaissait une technique rhétorique de plus en plus sophistiquée, dont témoigne la rhétorique d'Aristote, s'est fait de jour l'idée du pouvoir pacificateur, je pèse mes mots, du pouvoir pacificateur de la parole publique élaboré, pas spontané, élaboré. L'un des principaux promoteurs de cette idée s'appelait Isocrate. Il a ouvert une école en 390 avant Jésus-Christ et enseignait à ses élèves le travail minutieux sur la langue. Selon lui, le choix des mots, le polissage du style, l'assimilation patiente de moules de formulation ont une vertu qui les dépasse. En perfectionnant l'expression, on apprend à mieux penser. Et comme on ne peut mettre tant de travail au service de l'égoïsme et de la méchanceté, on défend de belles causes. Pour Isocrate, la principale de ces belles causes était le panhellénisme, identifié pour lui à la cause des Grecs contre les barbares, la cause de l'éducation, de la païdéia, contre, à l'opposé, l'esclavage des esprits. On peut sourire aujourd'hui ou frémir de ce complexe de supériorité des Grecs, et l'on n'ose plus parler de miracle grec. La notion de civilisation avec un grand C éveille plus de méfiance que de confiance, mais le rêve de concorde et de paix entre les peuples n'est évidemment pas démodé. Ce courant de pensée a été revisité à Rome par Cicéron. Le voici. Un homme qui fut dans sa vie à la fois un orateur, un philosophe et un homme d'État. Cicéron a défini une utopie à caractère esthétique, éthique et politique, celle de l'orator, homo bonus dicendi peritus, un homme de bien, c'est important, habile à parler. Archétype du politicien accompli sur le plan rhétorique, intellectuel et moral, et entièrement dévoué à la res publica. Quelques décennies plus tard, ce programme idéologique a été monnayé en 1000 préceptes à caractère technique par un immense pédagogue nommé Quintilien. Là est la toile de fond des exercices préparatoires de rhétorique dont je vais parler. Il ne se donne pas seulement pour but d'apprendre à parler en public ou à gagner un concours d'éloquence, mais de former un citoyen digne de ce nom, doué de la compétence la plus haute du citoyen, qui est celle de rédiger des lois. Alors ce modèle cicéronien a perduré pendant toute l'Antiquité et a été revivifié en Occident au début du Quattrocento dans le cadre de ce mouvement que l'on appelle humanisme et a servi à nouveau de modèle à l'époque révolutionnaire. Mais je n'entre pas dans une histoire très longue. Comme troisième observation liminaire, je voudrais souligner le fait que le dossier que je présente n'a rien de définitif. Il reste bien des points à instruire. Les exercices préparatoires de rhétorique sont un objet historique très particulier. D'abord en raison de la défiance très prononcée en France à l'égard de la rhétorique. On appelle couramment rhétorique ce qui est l'échec de la rhétorique, à savoir l'usage de grosses ficelles dans la communication orale, que ce soit au niveau de l'argumentation ou au niveau du style. Non, la rhétorique ce n'est pas cela, c'est la technique de la communication sociale et politique. Une technique qui s'est constituée comme telle dans une interaction étroite avec un régime où la parole était l'instrument du pouvoir, à savoir la démocratie athénienne des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. J'insiste beaucoup sur cette équation entre rhétorique et démocratie, et j'ajouterai que le plus grand théoricien de la rhétorique ancienne, ce n'est autre qu'un philosophe qui s'appelle Aristote, qu'on ne l'oublie pas. Ce qui rend difficile l'étude de ce dispositif pédagogique, c'est aussi son caractère transséculaire. 2000 ans, les progymnasmata, les progymnasmata dont je parle, ont 2000 ans d'existence. Et un caractère, encore une fois, ce qui rend très difficile l'approche historique rigoureuse, un caractère transculturel. Ce qui est concerné par ce dispositif pédagogique, c'est la Grèce, c'est Rome, c'est Byzance, c'est l'Italie de la Renaissance et c'est l'Europe moderne. Je vais tout à l'heure proposer un arrêt sur image sur les exercices pratiqués au début de l'Empire romain. Mais si je m'intéressais à ces mêmes exercices pratiqués dans une école protestante en Allemagne au XVIe siècle, évidemment, je ne dirais pas tout à fait la même chose. Il y a aussi, j'ai pu le constater, y compris chez mes collègues philologues, une sorte de dédain pour cette pédagogie intermédiaire qui vise des adolescents et des préadolescents. Là encore, je trouve que c'est une immense erreur. Si j'en avais le pouvoir, à une époque où des chiffres objectifs publiés par le ministère lui-même montrent l'aggravation des inégalités socioculturelles en France entre la 6e et la 3e, où les enquêtes PISA, je crois qu'il en sera question tout à l'heure, donnent pour la France des résultats en demi-teinte, sinon mauvais, pour la compréhension des textes, à une époque où la pratique de la lecture connaît une grave crise sur laquelle alertent des chercheurs comme Michel Desmurger, je mettrai cette question de la formation des adolescents au rang de cause nationale. Dans ce contexte, ni moi, ni les exercices préparatoires n'avons de solution clé en main à proposer, mais des pistes de recherche et de réflexion dans deux directions principales. L'histoire des exercices et l'évaluation des expériences faites pour les remettre au goût du jour. Alors, sur le plan de l'histoire des exercices, le colloque que j'ai organisé à Créteil en 2018 a apporté beaucoup de nouveautés, notamment sur l'extraordinaire diffusion de cette pédagogie dans l'Europe moderne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et là, les résultats sont tout à fait nouveaux. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Petit arrêt sur image pour rappeler le souvenir du Mésil. Voilà. « un collègue de Tübingen, mais ça a été rappelé tout à l'heure, Manfred Krauss, a montré qu'une traduction latine du petit manuel d'Aftonios, un manuel de Progymnasmata, a connu 523 éditions et a été diffusée à plus de 500 000 exemplaires, donc sur les trois siècles de la période moderne. Et il faut rappeler que chacun de ces exemplaires vise non pas un usage personnel particulier, mais un usage collectif. Plusieurs communications lors de ce colloque ont montré que, contrairement à ce que l'on croyait, la péninsule ibérique a produit elle aussi son lot de manuels. Le rôle des réformateurs, et ça donne une connotation politique à la question, a été très important. Et le manuel, un des manuels les plus fameux, celui de Loric, dûment caviardé par l'Inquisition, n'a pas été interdit. Un manuel protestant, corrigé, caviardé par l'Inquisition, mais qui est resté sur le marché. Il a même été utilisé par les jésuites, rendez-vous compte, avant que ces derniers ne fabriquent leurs propres instruments de travail. Cela dit, sur le plan historique, il reste beaucoup à faire, et notamment sur la mise en place des exercices à l'époque hellénistique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender. Et aussi, deuxième point mystérieux, sur les modalités précises et les raisons de leur disparition de l'enseignement européen au XIXe siècle. Les progymnasmata ont existé, ont été en pratique dans l'enseignement européen jusqu'au XIXe siècle, et les conditions de leur disparition restent assez compliquées. Comme l'a montré Antoine Compagnon, l'affaire est compliquée par le fait que le sort de la rhétorique s'est trouvé lié à celui du latin. Et il est difficile de bien faire la différence entre le sort des langues mortes et celui de la rhétorique. J'ai bien peur que le bébé rhétorique ait été jeté avec l'eau du bain latin. Pour l'évaluation de la pertinence pédagogique de ces exercices, la grande difficulté est de faire des expériences au bon niveau et d'une importance significative en termes d'effectifs et de durée. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Je passe tout simplement au point que vous, je pense, vous attendez, la définition. Qu'est-ce que les progymnasmata? Alors, on peut lire un petit livre où, c'est le moment de publicité, pardonnez-moi, on peut lire un petit livre où je les présente de manière assez détaillée. Alors, dans ce mot de progymnasmata, la référence à la préparation physique est tout à fait claire. Mais en fait, il s'agit de s'entraîner à créer et à prononcer, je dis bien à créer et à prononcer, un discours oral, mais la préparation est écrite, dans les trois genres, discours délibératif ou discours politique, discours judiciaire ou discours de cérémonie. L'époque de référence pour la mise en place de ce dispositif éducatif, ce sont les premiers siècles de l'Empire romain. Le niveau concerné est celui de notre second degré, disons entre 9-10 ans et 17 ans. L'étape suivante sera la classe du rhéteur ou la classe du philosophe. Ou, dans le cadre de la classe du rhéteur, on apprendra à traiter les affaires plus proches de la réalité. Au niveau où nous sommes, la réalité traitée est plus typologique que concrète. Je veux dire par là que l'on rédige le blâme d'un despote de l'histoire ou de la mythologie, mais pas d'un tyran attesté dans la réalité, un tyran réel. La préparation se divise en deux sortes d'exercices. Dans une première série, l'élève est appelé à rédiger et à déclamer une dizaine de formes discursives classées dans un ordre de difficulté ou de complexité croissante. Alors voici les 12 exercices progressifs tels qu'on les trouve chez un autre pédagogue grec, Aftonios, qui écrivait au IVe siècle après Jésus-Christ, dans la partie orientale de l'Empire romain, dans la Turquie actuelle. Je présente rapidement chacun de ces exercices. L'important est de voir d'abord ce que chacun recouvre, et ensuite le sens du passage de l'un à l'autre, puisque la série est progressive. Alors on commence par la fable. C'est celle que nous connaissons grâce à Jean de La Fontaine. C'est la fable ésopique ou fable animalière d'un genre littéraire qui remonte à la Mésopotamie du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors avec, sur le plan technique, une narration, éventuellement une description, un dialogue, ainsi qu'un énoncé gnomique, c'est-à-dire une morale de forme souvent travaillée avec une forme rimée, enfin une forme poétique, disons, une rime intérieure, etc., etc. Le deuxième exercice est le récit. Récit de faits réels ou fictifs, travaillé à partir de ces éléments constitutifs. Les personnes ou les personnages, l'action, le lieu, le temps, la matière et la motivation ou cause. Chez Théon, les qualités du récit sont la clarté, la concision, la vraisemblance et la correction, mais tout est soumis à la vraisemblance. L'essentiel de ce qu'on demande à l'élève, c'est de faire un récit vraisemblable auquel on puisse croire. Troisième exercice, la crie, ce qui est la présentation, la citation et le commentaire d'une anecdote édifiante. Son nom de crie indique qu'elle doit transmettre une expérience utile dans la vie. Créa, c'est l'utilité. Elle est accompagnée ou non d'une parole bien sentie. Je ne peux pas me retenir de vous citer cet exemple de crie. Diogène, le philosophe cynique, à la vue d'un enfant indiscipliné, frappa son pédagogue. Quatrième exercice, la maxime, qui peut servir de morale à la fable et qui est une proposition à caractère général qui véhicule une idée reçue ou une recommandation du genre « la nuit porte conseil ». Comme pour la crie, l'exercice consiste à présenter et à commenter la maxime. Cinquième exercice, et je pense que vous commencez à comprendre ce qui se joue dans cette évolution, dans cette progression, la contestation-confirmation, qui aborde de front la pluralité des opinions. L'élève a déjà appris à donner son jugement sur la vraisemblance ou la moralité d'une fable ou d'une maxime. Mais là, on lui demande de formuler, de distinguer et de sérier des arguments en faveur ou en défaveur d'un récit mythologique. Sixième exercice, le lieu commun, qui est plus proche du réel et aussi de l'investissement de chacun dans l'action. On commence à parler de comportement. C'est l'amplification moralisatrice d'un comportement type, positif ou négatif, le traître, le tyran, le débauché ou le lauréat du prix de la bravoure. Septième étage de la fusée, avec l'éloge et le blâme, il s'agit toujours d'injecter de l'axiologie, c'est-à-dire des jugements de valeur dans un texte, mais deux différences apparaissent. L'objet n'est plus un type humain, c'est une personne comme Alexandre, ou un personnage comme Médée, et le discours n'est plus un mini-discours, mais un discours complet. On voit que la progression se fait aussi par la complexité. Huitième exercice, le parallèle, qui représente lui aussi une avancée en complexité, c'est l'éloge ou le blâme comparé de deux objets, par exemple l'éloge d'Achille et l'éloge d'Hector, qui mettra en valeur l'héroïsme des deux personnages homériques, mais aussi la différence entre une tête brûlée et un chef humain et responsable. Le parallèle introduit donc une opération intellectuelle fondamentale, qui est la comparaison, laquelle suppose une analyse détaillée des caractéristiques des deux objets comparés. Le neuvième exercice est l'étopée, souvent considéré comme l'exercice roi, et dont vous allez entrevoir, j'espère, toute l'actualité. Il s'agit pour l'adolescent de rédiger et de déclamer une tirade où s'exprime une autre personnalité que la sienne, un personnage de la mythologie, comme Médée, ou un type humain ou social, comme le pauvre, le paysan. Tout le travail d'écriture et de jeu consiste à rendre plausible le changement de personne et de point de vue. Le garçon doit incarner une fille, l'aristocrate faire admettre qu'il est un paysan, le jeune qu'il est un vieux, et ainsi de suite. C'est un exercice de décentrement et d'empathie, d'altérité vécue, mais c'est aussi un jeu sur les codes linguistiques. J'ai un souvenir particulièrement marquant lors d'une formation d'enseignants dans le sud de la France organisée par Anne Rossini, de collègues à qui j'avais demandé de rédiger et d'interpréter une étopée, ils avaient choisi d'interpréter, eux, professeurs, des adolescents refusant de retourner au collège et reproduisant aussi bien la véhémence, l'énergie des jeunes et leur pratique du langage. Dixième exercice, la description. Alors cette description, chacun de ces exercices, oui, mérite beaucoup de très longs développements. La description évoquée ici est un héritage d'Aristote, et de ses analyses sur la capacité du langage à susciter des images mentales, elles-mêmes susceptibles de créer des émotions. Ce qui facilite cette fonction est le choix de détails visuels particulièrement évocateurs. Il s'agit en quelque sorte de créer une sorte de film dans l'esprit de l'auditeur, ce que réussissent les meilleurs romans policiers. Onzième exercice, la thèse. Alors, on arrive au discours complet qui vise à répondre à une question ouverte à l'aide d'arguments rationnels. La thèse est pourvue d'une dimension dialectique, puisqu'une partie importante du discours est consacrée à l'anticipation sur les objections d'un interlocuteur supposé. Pour la première fois, l'élève est confronté à un choix qui concerne sa propre vie et à la responsabilité de répondre d'une manière convaincante, c'est-à-dire partageable. Les sujets proposés pouvaient avoir un caractère pratique, faut-il se marier ? Ou plus théorique, les dieux existent-ils ? L'enseignement faisait appel largement à des topics, c'est-à-dire à des listes d'arguments susceptibles de guider la réflexion. Mais la thèse n'est pas l'azimut de la formation. Le dernier exercice est la proposition de loi. Exercice complexe qui impose de comprendre les tenants et les aboutissants du projet social et politique qui réunit les membres de la collectivité. En effet, il n'est pas de bonne loi qui ne soit claire et compréhensible par tous, cohérente avec les autres, applicable, c'est-à-dire acceptable, émanant de l'ensemble des partenaires de la société et non d'une minorité ou d'un lobby. Avtonios propose ainsi une discussion sur la loi qui autorise à tuer un adultère pris en flagrant délit. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais ce qui est tout à fait révélateur, c'est que c'est le contrat social qui est en cause avec le dernier exercice et la capacité pour chaque adolescent de rédiger un principe de vie. Alors, ces exercices sont des textes que le professeur définit, qu'il décrit, et que l'élève doit apprendre à produire par écrit et à déclamer par oral. Mais ils sont complétés par un certain nombre de manipulations. Par exemple, pour la fable, on demande à l'élève de produire une fable nouvelle, mais non sans l'y préparer. J'insiste beaucoup là-dessus. On commencera le travail en sélectionnant plusieurs fables préexistantes, de bonne qualité, c'est-à-dire simples, naturelles et claires, et on demandera à l'élève de les apprendre par cœur. Pour développer sa maîtrise de l'intrigue, on pourra demander à l'élève de les présenter en commençant le récit in medias res, c'est-à-dire en plein milieu de la narration. C'est-à-dire, par exemple, en partant du milieu de l'action et en apportant les précisions nécessaires au fur et à mesure. « Que vous êtes joli, que vous me semblez beau !» Voilà le discours que le renard tenait au corbeau. Il guignait le fromage que l'oiseau tenait en son bec, là-haut, tout là-haut, perché sur un arbre et hors de sa portée. Vous voyez, la gymnastique intellectuelle qu'on demande à l'élève en lui proposant de prendre le récit au milieu et d'apporter... il y aurait beaucoup à dire sur la maîtrise de la cohérence qu'on développe ainsi d'une manière tout à fait ludique. Je reprends le rappel qui a été fait tout à l'heure sur la place du jeu dans l'éducation. À partir de fables préexistantes, on demandera d'autres manipulations, comme ce qu'Elius Théon appelle la flexion, qui consiste à changer de cas et de nombre. Dans une langue comme le grec, où il y a des déclinaisons, ce changement correspond à un changement de la syntaxe. Si le corbeau est sujet, au nominatif, il faudra transformer les indépendantes en infinitives, ce qui occasionnera le passage du sujet à l'accusatif. Le corbeau répondit, devint, on raconte que le corbeau répondit, d'où en grec, un triple jeu sur les temps, les modes et les cas. Je n'entre pas dans le détail puisque le décalage entre le français et le grec rend les choses difficiles, mais vous voyez la gymnastique qui est une gymnastique linguistique et intellectuelle. Il y a beaucoup d'autres exemples. On pouvait demander à l'élève d'inventer une fable pour une morale ou une morale pour une fable. On introduisait également, et c'est fondamental, une distance critique vis-à-vis des productions des autres élèves de la classe ou des fables de la tradition, sous la forme de petits textes appelés confirmation-réfutation, avec une série de de rubrique obligée. L'élève devait dire si, à son avis, la fable était claire, si elle était cohérente, si elle était vraisemblable, si elle était authentiquement morale ou pas. Voilà pour la première série d'exercices. La deuxième série correspond à des exercices répétés, soit dès le début de la formation, soit introduits à partir d'un certain stade. Je n'entre pas dans le détail. Les cinq exercices d'accompagnement, selon Elusteon, sont les suivants. Elusteon, donc, 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ. Premièrement, la lecture à voix haute de discours préexistants en reproduisant autant que possible les conditions de la première énonciation du discours. La lecture silencieuse n'était pas courante dans l'Antiquité, en raison de la difficulté de déchiffrage des manuscrits, elle-même liée à l'usage de la scriptio continua, c'est-à-dire à l'absence de séparation entre les mots, à la rareté de la ponctuation et à l'absence de différenciation entre majuscules et minuscules. L'élève devait donc préparer sa lecture et oraliser le texte en y mettant la prosodie et les gestes. Une métaphore courante chez Théon notamment, mais aussi chez Quintilien, pour décrire le bénéfice de cet exercice est la métaphore de l'empreinte. Il s'agit d'imprimer le modèle dans l'esprit et le corps. Vous avez remarqué qu'il y a une dimension théâtrale dans cet exercice de l'enfant. Deuxièmement, l'audition, qui consiste à aller écouter une conférence en ville, visiter un tribunal, et à revenir en reproduire des morceaux en classe. La paraphrase, sur laquelle je reviendrai, l'élaboration, qui consiste à améliorer un texte défectueux, la contradiction, qui consiste à prendre le contre-pied de l'argumentation soutenue dans un texte. Et vous voyez, cette éducation grecque que Marroux avait tendance à présenter d'une manière très dogmatique et très sclérosée, en fait, était beaucoup plus ouverte qu'il ne l'a dit. Là, on voit aussi le résultat de la recherche et de la découverte de nouveaux textes. Je passe maintenant à quelques considérations pédagogiques. Le regard a changé sur ces progymnasmata. Dans l'immédiate après-guerre, Marroux avait devant lui l'éducation réformée par Jean Zaire. Enfin bon, le contexte était vraiment très très différent. Donc, dans l'immédiate après-guerre, le grand historien de l'éducation grecque, Henri Marroux, s'en est moqué, et notamment des exercices de manipulation grammaticale qu'il jugeait trop mécaniques, sinon absurdes. Et c'est vrai que quand on change la fable et qu'on la met au duel, ça donne les deux philosophes Pythagore conseillaient à leurs disciples de s'abstenir de viande saignante, etc. On aboutit par esprit de système à des absurdités. Mais Henri Marroux n'avait pas à sa disposition le texte complet d'Elusteon. Et ce dernier, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage qui pourrait servir de guide à beaucoup de pédagogues un peu raides. Il ne faut pas toujours maintenir comme une règle rigoureuse l'emploi uniforme du cas posé au départ, mais introduire quelques disparates et user d'un mode mixte en posant d'abord un certain cas et en passant ensuite à un autre. Une telle diversité, en effet, a plus d'agrément. C'est le plaisir de la métabolée, de la variation dont Denis d'Halicarnasse a parlé, mais qui, je pense, nous parle à tous. Pas d'ennui, donc de la variété. Rien n'est plus étranger à l'esprit de système que cette déclaration et ce qui m'apparaît, moi, à la lecture du manuel d'Elusteon et la pertinence des principes pédagogiques mis en œuvre. Alors, je vais prendre, pour faire un petit focus, l'exemple le plus simple, celui de la fable. D'abord, c'est essentiel, dans le cas de la fable, il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de connivence implicite sur un corpus censé être connu de tout le monde. Ce genre de non-dit si fréquent dans l'enseignement des lettres et qui introduit très vite une inégalité entre les élèves issus de milieux socioculturels différents. Chez Théon, on définit la fable au préalable, on en apprend et on en étudie plusieurs afin que les élèves aient en tête le même corpus de référence. J'insiste beaucoup parce que dans les échecs de l'enseignement de la littérature en France, ces connivences tacites font des dégâts considérables. On note aussi la parfaite adaptation de la fable à l'âge. Environ 10 ans auxquels on l'a fait pratiquer. Outre le caractère ludique de la fable animalière, il y a un équilibre parfait entre le donné et l'inventé, entre la reproduction d'un modèle et l'invention de textes nouveaux, entre la réception de valeurs et un début de mise en question, de remise en question de ces valeurs. De plus, les manipulations de type linguistique sont tout à fait adaptées à un âge où l'on aime encore jouer, sans parler de l'attrait du défi et de la difficulté. Surtout, et l'on peut dire de cela de tous les exercices, la fable est un véritable pas de tir pour atteindre des opérations discursives plus difficiles, d'où la spirale que j'ai ajoutée pour illustrer la première série d'exercices. Si l'on distingue dans la fable 4 éléments principaux, le récit, la description, le dialogue avec recréation d'idiolecte, c'est-à-dire de façon de parler propre à un type éthique, le renard qui est rusé, le loup qui est balourd, l'agneau qui est innocent et naïf, et quatrièmement la morale, on se rend compte que le récit et la description sont repris et perfectionnés pour leur propre compte dans la suite de la formation. Que la reproduction d'un idiolecte, une façon de parler particulière, se retrouve à un niveau d'exigence supérieur dans l'étopée. Que le dialogue annonce le débat argumenté. Quant à la morale, elle se retrouve formellement dans la maxime et, sur le fond, dans le lieu commun, l'éloge et le blâme. Autrement dit, la fable contient l'embryon de la quasi-totalité des formes discursives qui seront ensuite perfectionnées. Des formes discursives qui correspondent également à la plupart des ingrédients qui entrent dans la composition d'un discours. J'ajouterai que ces formes ne sont pas cantonnées à l'éloquence. Cette rhétorique n'est pas simplement un art de faire des discours. La fable et la crie sont des genres littéraires. La morale se rattache aux énoncés gnomiques et donc à l'épigramme, qui est elle aussi un genre littéraire. Je n'ai pas besoin de souligner le rapport entre récit et description et le roman, ni le lien entre une étopée et une tirade de théâtre. On a donc avec les progymnasmata un condensé des formes utiles à l'éloquence et un éventail presque complet de tous les genres littéraires. Je soulignerai aussi l'apport de la tradition cynique à une tradition qui peut, par certains aspects, paraître conservatrice. Cette école philosophique, connue par le personnage de Diogène ou de Cratès, se donnait comme objectif de dénoncer toutes les vanités, toutes les prétentions sociales et de favoriser un mode de vie le plus proche possible de la nature. Les anecdotes mettant en scène Diogène ont un caractère décapant qui encourage l'esprit critique et la liberté de parole, notamment dans le domaine sexuel, et la liberté de penser. Alors si l'on essaie d'approfondir encore l'analyse, on constate que la progression développe les potentialités sociopolitiques du langage en relation avec le développement de l'adolescent. La part de l'initiative augmente. On commence par le jeu avec la fable et la crie, y compris avec une part de provocation. On développe progressivement la capacité d'asserter, puis d'injecter de la valeur et de l'affect dans les énoncés. Et petit à petit, l'argument sort de sa gangue de subjectivité. On apprend à l'adolescent à se mettre dans la peau d'un autre pour finalement lui demander de sortir de son point de vue pour concevoir l'intérêt général d'une manière rationnelle. On peut contester évidemment la part des valeurs reçues, des préjugés, mais en même temps, ce qui se transmet avec la capacité de les remettre en question, ce sont les valeurs partagées par un groupe. Le discours commun, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il fait défaut, gravement défaut. Si l'on demande aux jeunes gens aujourd'hui dans un collège s'ils se reconnaissent dans les valeurs républicaines, comme l'état de droit ou la laïcité, on s'expose à de graves déceptions. Les exercices d'accompagnement. Oui, je songe à conclure. Alors, je vais passer... je voulais parler un peu de la paraphrase, mais je vais passer directement à une synthèse rapide et à ma conclusion. Alors, je me suis amusé avec ce génie qui vient d'une lampe qu'on a frottée. Les 7 coups de génie des progymnasmata à mon sens. Formation progressive, suivie sur une longue durée. Deuxièmement, apprentissage par la pratique active. Gérard Genette, dans les années 70, dénonçait déjà la passivité dans laquelle on laisse les enfants lorsqu'on leur apprend les lettres et la littérature. Les progymnasmata anticipaient sur la pédagogie nouvelle. Troisièmement, entrelacement du ludique, de l'affectif et du logique. La pertinence de cette synergie est validée par les sciences cognitives qui montrent l'existence de liens objectifs entre émotion et mémorisation. Quatrièmement, et c'est tout à fait essentiel, association permanente de la formation linguistique et de la pratique de l'expression. Le lexique et la syntaxe ne sont pas des objets ingrats à décrire et à mémoriser, mais des instruments qui sont constamment mobilisés pour la communication. Vous avez remarqué aussi l'intrication de l'écrit et de l'oral. On écrit pour mieux oraliser, l'oral valide ou non, la qualité de la préparation écrite. Sixièmement, formation méthodique au décentrement. S'exerce à parler depuis un autre point de vue, avec un idiolecte ou un sociolecte différent, formation systématique à l'esprit critique. Et enfin, c'est fondamental, j'aimerais que William Marx soit ici pour qu'on puisse continuer la discussion, ouverture naturelle vers une littérature conçue non comme un corpus sacré et intimidant, mais comme une mine de moyens d'expression et de solutions et de modèles esthétiques. Alors pour conclure, je dirais que la renaissance de cette batterie d'exercices est déjà effective dans plusieurs pays. La Belgique est très active avec de jeunes chercheurs de l'Université libre de Bruxelles sous la houlette d'Emmanuel Damblon. Mon coturne belge pour le colloque de 2018, Benoît Sens, vient d'être nommé maître de conférence à l'Université de Rennes où il compte répandre la bonne parole. On compte des expériences intéressantes en Suède, aux USA, en Suisse. En France, grâce à des collègues comme Christophe Bréchet et Marie Humeau, l'Université de Nanterre propose depuis plusieurs années un cursus humanité avec une solide formation rhétorique. En juin 2022, a eu lieu à la Sorbonne un colloque sur rhétorique et pédagogie qui relatait différentes expériences faites dans le second degré ou à l'université par de jeunes docteurs ou doctorants formés en rhétorique. Régis Caruso, Luca Hensler, Benjamin Sylvestre-Giraud. Il faut se réjouir aussi de la réceptivité de l'inspection générale en la personne notamment de M. Alain Brun. Mon petit livre a fait l'objet d'une présentation détaillée sur le site du ministère. Comme je l'ai indiqué à l'instant, j'ai été invité à proposer une formation à l'intention d'enseignants du second degré par une IPR de l'Académie de Nice, Anne Rossini. Bref, il y a des signes positifs de la réexploitation de ce gisement. Mais il reste beaucoup à faire et surtout un effort de visée. Les expériences les mieux documentées se font dans l'enseignement supérieur. C'est une excellente chose, mais la véritable cible, ce sont les préadolescents et les adolescents. Pour que la valeur formatrice des progymnasmatois soit établie d'une manière solide, pour qu'ils deviennent des outils pédagogiques scientifiquement éprouvés, et je cite le manifeste « Agir pour l'éducation du Collège de France », il faudrait une expérience de grande ampleur comportant la mise en pratique complète du cycle pédagogique dans son double mouvement progressif et récurrent, c'est-à-dire avec la série des 12 et la série des 5 exercices éventuellement adaptés sur une population consistante de préadolescents et d'adolescents, et cela sur plusieurs années et avec un volume horaire conséquent. À ma connaissance, un tel projet a été réalisé une fois à partir de l'année 2000 sous l'égide d'un enseignant américain nommé James Selby, d'abord dans l'Oregon, puis dans une petite école chrétienne de la banlieue de Kansas City, Whitefield Academy. J'ai eu la chance de faire venir Jim Selby à Créteil en 2018. On peut lire son compte-rendu dans les actes de notre colloque. Ce qui est intéressant est que son point de départ a été la difficulté de faire écrire les élèves. Évidemment, cette expérience, j'arrive au bout, écologique comme on dit, c'est-à-dire en situation de vie réelle, n'a pas fait l'objet d'une exploitation véritablement scientifique. Cette exploitation est compromise puisque Jim Selby est décédé en janvier dernier. Alors je voudrais juste une dernière phrase, Monsieur le Président. On aimerait, je souhaiterais qu'une ou plusieurs expériences soient faites et décrites dans un ou plusieurs collèges français. On aimerait savoir, par exemple, chiffres à l'appui, si la pratique d'un exercice comme l'étopée a un impact sur le harcèlement et plus généralement sur la sociabilité, quel est l'effet de ce type d'enseignement sur l'acquisition du vocabulaire et la suite du cursus scolaire, la pratique de la lecture, etc. Entre les fake news, l'artificialisation des esprits, le harcèlement scolaire, la violence endémique, les difficultés de compréhension de textes simples ou les troubles anxieux, l'adolescence actuelle n'est pas avare de problèmes à résoudre et j'ai la conviction que les progymnasmata pourraient rendre à nouveau des services. Je m'excuse de cette...
un petit peu... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.